Bienvenue dans Art Confidence sur Art District, l'émission qui va à la rencontre des artistes et des acteurs du monde culturel, ce qui les anime, ce qui les passionne, ce qui les motive. C'est Julie Chaise-Martin au micro et j'accueille aujourd'hui à mes côtés un artiste hors norme, connu pour son esprit indépendant, son goût de la désobéissance civile et de la contestation citoyenne, ennemi de la bien-pensance et performeur de la première heure. J'ai nommé Fred Forrest, pionnier de l'art vidéo dans les années 60, aux côtés notamment de Nam June Paik, et initiateur de deux courants artistiques que l'on va évoquer lors de cette émission, l'art sociologique et l'esthétique de la communication. Fred Forrest est mis à l'honneur par le Centre Pompidou cet été dans une exposition qui ouvre très prochainement, donc le 12 juillet prochain jusqu'au 28 août. Fred Forrest ou Citizen Fred, hein, c'est comme cela qu'on vous surnomme parfois. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être à mes côtés aujourd'hui pour parler donc de votre exposition au Centre Pompidou et revenir aussi sur votre démarche artistique qui vous anime depuis plus de 40 ans. Alors justement, 40 ans, c'est l'anniversaire aussi du Centre Pompidou, qui fête en 2017 ses 40 ans d'existence. Et dans le même temps, vous célébrez vous-même les 40 ans de votre mètre carré artistique. Alors on va en parler dans cette émission, puisque ce mètre carré artistique, c'est justement sur ce concept que vous avez créé que l'exposition s'attache plus particulièrement. On va en parler ensemble, mais en préambule, avant de rentrer dans le vif du sujet, Fred Forrest, en guise de première question, je ne peux éviter de mentionner que vous n'avez pas toujours été en odeur de sainteté avec le Centre Pompidou. Je fais référence au procès devenu, comme vous le dites vous-même, un parcours du combattant que vous avez intenté contre le Centre Pompidou en 1994, qui refusait, donc le musée à l'époque refusait de vous communiquer le prix des œuvres qu'il acquiert hein, régulièrement. On ne peut qu'être surpris aujourd'hui donc de vous retrouver avec une grande exposition au sein même, dans les murs hein, du Centre Pompidou. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, c'est une bonne question. D'abord, je vous dis que je souscris entièrement à la première présentation que vous avez faite de moi. évidemment, c'est étonnant, mais c'est aussi un long parcours pour en arriver là. Et ça a été un combat de tous les instants pour moi. Elle s'est faite grâce à un personnage qui est Alain Seban, l'ancien président du Centre, que j'avais attaqué lui-même de nombreuses fois et qui, m'ayant connu, a pris d'abord connaissance de mon travail qu'il ne connaissait pas, a reconnu et a vu que j'étais un dossier dans plusieurs domaines, que j'avais amené ma pierre, et il a reconnu aussi ma sincérité dans mes actions. Et quand je l'ai vu pour la première fois dans son bureau, il m'a dit « Alors, monsieur Forrest, qu'est-ce que vous voulez ?» Je lui ai répondu « Je veux une exposition au Centre Pompidou parce que j'estime tout à fait légitime de l'avoir. » Et au lieu de se braquer contre... Il s'est intéressé à mon travail. Ça a mis 3 ans. Dans un premier temps, alors, il y avait des fonctionnaires du centre et des conservateurs qui étaient absolument contre moi. Et donc, il m'a dit lui-même, je ne peux pas, moi seul, décider de votre... Le projet doit venir d'un de mes conservateurs. Et donc, il s'est passé un temps, et moi, j'ai proposé à des conservateurs étrangers de faire cette exposition. Ça n'a pas marché à cause de ces conditions qu'il m'avait dit, mais... Les deux conservateurs qui étaient contre moi à fond, c'est une dénommée Christine Van Hache, et je cite son nom à l'antenne, et puis Alfred Pacman, qui était le directeur du MNAN, le Musée National d'Art Moderne. Et Alain Seban m'a dit, ils partent prochainement à la retraite, on verra après. Et donc, bon. Mais malheureusement, Alain Seban est parti peu de temps après avoir fait cette promesse. Et tout a été pour moi pour recommencer à zéro. Et là, c'est un véritable parcours du combattant. Alors que vous avez sonné, que vous arrivez même, je faisais encore une lettre de contestation parce que un projet d'une telle importance se voit mis en cause simplement par la mauvaise volonté de certaines personnes, par le fonctionnement aberrant de cette structure. Et j'en suis dans une situation, comme je dis au président, le nouveau président de Beaubourg, que c'est une situation inadmissible et digne de Kafka, en ajoutant qui sera sensible ayant connaissance de ses références littéraires. Parce que avant, il a occupé un poste où il s'est intéressé beaucoup à la littérature. Par contre, les arts plastiques, il a laissé ça plutôt à son directeur du MNAM.
Aujourd'hui, justement, donc, vous êtes content d'être au centre?
Je suis heureux. Je suis l'homme le plus heureux, malgré toutes les difficultés que j'ai eues et que je continue encore à avoir avec eux à une dizaine de jours. Pourquoi? Parce que David a gagné contre Goliath. Et c'est pour moi la plus belle œuvre que j'ai faite en ayant eu cet objectif de faire cette exposition et qu'elle se place maintenant devant moi dans 10 jours.
Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette exposition?
Alors, l'exposition, il y a une jeune commissaire qui a été nommée, qui s'appelle Alicia Knock, qui est toute jeune, donc qui n'a pas de pouvoir par rapport à la hiérarchie, et qui, elle, s'occupe, par rapport à sa formation, de la présentation muséale. Elle a repris toutes mes œuvres et elle a fait un choix. Je lui ai laissé entièrement la liberté de ses choix, bien qu'au fond, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'elle a choisi des choix qui vont jusqu'à l'année 80 et que mon travail, tout ce travail que j'ai fait après sur Internet, sur Second Life, et maintenant sur le virtuel, mais elle a fait comme elle a voulu. Et moi, je présente 2 œuvres majeures qui sont des créations in situ à cette occasion. Alors, une création, c'est autour de mon territoire.
Voilà, justement, ce que vous avez appelé le mètre carré artistique,
voilà,
que j'ai nommé tout à l'heure dans l'introduction.
Voilà. Et donc, le territoire, c'est la suite du mètre carré, tous les avatars que j'ai eus sur le plan politique, etc. Et le territoire, c'est un lieu réel qui existe à 50 km de Paris, qui se compose de bâtiments et d'un terrain de 1000 mètres carrés que moi, j'ai baptisé mètre carré.
Artistique.
Voilà, artistique. Et donc, c'est visitable et ça existe dans le concret.
C'est-à-dire que c'est un territoire que vous avez choisi?
Oui, j'ai choisi un terrain. Il y avait un vieux bâtiment, des vieux bâtiments que j'ai complètement rénovés.
Vous avez acheté ce terrain.
Mais il y a 50 ans.
Oui. Hein.
Et donc, j'ai rénové peu à peu. Et mon projet a évolué en fonction de ces rénovations. Mais je n'ai pas eu les moyens aussi financiers de le rénover autant que j'aurais voulu. Je voulais des caméras dans chaque pièce qui transportent les gens d'une pièce à l'autre. Bon. Mais malgré tout, il existe, il a le mérite d'exister, ce territoire. Et donc, il va intervenir dans mon exposition comme un peu la colonne vertébrale de mon exposition, puisque c'est une action qui est née à l'époque et qui s'est poursuivie en évoluant jusqu'à nos jours. Elle continue à évoluer parce que elle disparaîtra à ma mort, à moins qu'un cinglé prenne la suite, mais j'en doute fort.
Donc, ce qui est amusant ici, c'est qu'on va découvrir effectivement votre travail. Le grand public qui peut-être ne vous connaît pas va découvrir ce territoire artistique. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce territoire artistique? Et je crois qu'on peut aussi préciser qu'avant même ce territoire, ce mètre carré artistique, il y avait aussi des space médias que vous aviez initiés, notamment dans la presse. C'était des blancs, alors soit des blancs dans les journaux, où le citoyen, l'homme lambda ou la femme pouvait s'exprimer et écrire un petit mot et exprimer ce qu'il voulait en fait, mais aussi des blancs à la radio, puisqu'on est aujourd'hui à la radio et à la télévision. Donc là, c'était les prémices finalement de ce concept que vous avez ensuite étendu au territoire.
Oui, parce que le territoire finalement, ces mètres carrés, ce sont des espaces d'expression et de communication. Et tout mon travail tourne autour de la participation, de l'échange. Et donc, c'est un territoire d'espace, disons, d'échange et de communication. Pour en revenir à mon territoire, encore, donc chaque pièce... Alors, dans mon projet, ce qu'il faut tenir compte, c'est que j'ai baptisé ce territoire le territoire du mètre carré. Et je l'ai déclaré... indépendant dans la France. Donc c'est une sorte d'autonomie que j'ai proclamée. Et donc j'ai commencé à jouer en tant que président débonnaire et du territoire, à jouer les relations avec les grandes instances, l'UNESCO, etc., en présentant comme le... Alors j'ai des tas d'échanges qu'on pourra voir dans cette exposition.
Donc vous avez écrit, vous avez envoyé des lettres,
Oui, j'ai envoyé des lettres de protestation, d'acceptation, des propositions pour l'art, etc.
Donc c'est une manière vous de vous exprimer en tant qu'artiste, ce territoire complètement libre.
Voilà, et bon, alors beaucoup de ces institutions ne m'ont pas répondu, mais beaucoup d'autres m'ont répondu.
Et qu'est-ce qu'elles vous ont répondu ?
Ah ben, bon, c'est comme pour mon territoire. J'ai lancé dans le journal Le Monde une publicité qui faisait trois quarts de page et qui disait « Placez Boca de Pito à deux pas de la frontière suisse ». Parce que initialement, les premiers mètres carrés, ils existaient à la frontière suisse. Pourquoi la frontière suisse ? Parce que la Suisse est le pays connu pour l'argent. Et donc, j'ai acheté un terrain à un agriculteur qui faisait 5 mètres sur 4, donc 20 mètres carrés. J'ai fait venir un géomètre qui les a inscrits au cadastre. Et la société civile immobilière du mètre carré artistique que j'ai créée était chargée de commercialiser. Bon. Et dans cette publicité, je reprends toute la terminologie publicitaire que je détourne. Et ça a eu un impact très fort. Même des banques, même des grandes firmes d'immobilier voulaient en savoir plus. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, pour réussir mon opération, si vous voulez, l'opération au départ, elle tenait à ce qu'un artiste prétende pouvoir porter une parole critique à l'échelle nationale ou internationale.
C'était une sorte de défi que vous vouliez.
Oui, un défi, mais qui paraissait bien présomptueux pour moi, qui n'avait aucun appui ni financier, ni aucun appui politique. Et bien, je suis arrivé parfaitement. Et je vais vous expliquer comment. J'ai mis en place un dispositif qui se divise en quatre points. Premier point, j'ai acheté ce terrain à la frontière suisse. Non, premier point, j'ai créé une société civile immobilière, dite du mètre carré artistique, qui avait une existence légale. J'aurais pu construire des buildings moi-même. Voyez-vous, je crée une sorte d'institution, mais qui ne va pas fonctionner dans le sens où fonctionne cette institution, mais au contraire, voilà. Donc j'ai toute la crédibilité. Bon. Second étape, j'ai acheté ce terrain de 5 mètres sur 4 à un agriculteur à la frontière suisse. Troisième étape, c'est j'ai publié dans le journal Le Monde cette grande publicité qui était titrée « Spéculateur, placez vos capitaux à deux pas de la frontière suisse ». Alors, évidemment, la provocation était très grande et c'était le journal Le Monde, un journal de référence, qui publiait ça, donc ça a eu un succès énorme. Et quatrième étape, c'était une grande vente à l'Espace Cardin par un commissaire priseur qui était très connu à l'époque pour avoir vendu le Picasso le plus cher, qui s'appelle Jean-Claude Binoche, à qui j'ai proposé, dans cette vente, la vente de mètres carrés artistiques. Mais alors, à ce moment-là, il y a eu un tas de problèmes qui ont surgi. Parce que les instances de régulation et de contrôle de la société, à travers cette publicité que j'avais faite, se sont adressées. Vous savez, les renseignements généraux, ils contrôlent tout ce qu'il y a dans les journaux, et ça les a intrigués. Ils ont pensé que j'étais quelqu'un qui voulait tromper le public. Mmh. Et donc, j'ai été convoqué au ministère quai de Gênes par la police. Et là, j'ai été interrogé pendant 3 heures par des policiers qui m'ont d'abord dit, monsieur, demandé mon identité. Alors, je dispose, si on avait le temps, je pourrais vous lire tout ce rapport. Donc, ils m'ont interrogé, d'abord sur mon identité, puis ils m'ont sorti le rapport de la gendarmerie d'Annemasse qu'ils avaient sollicité, qui disait que ce terrain n'avait rien d'artistique. Et je leur expliquais, mais messieurs, avec un petit sourire, vous savez que les gendarmes n'ont aucune qualité pour décider de l'art. Et c'est l'artiste, moi, qui décide de l'art.
Oui. Bon, c'est évidemment.
Alors, ils n'ont rien eu à dire. Alors, ils m'ont dit, mais vous prétendez que ce terrain a plus de valeur par la proximité avec la Suisse. Je dis, bien entendu. Comment vous ne savez pas, vous qui contrôlez les passages des capitaux, que la facilité, étant donné la proximité géographique du terrain, facilite les transactions. Donc, plus-value de cet endroit. Et en plus, j'ai ajouté dans l'improvisation, comme la tradition de neutralité de la Suisse est connue, c'est un terrain où vous avez plus de sécurité en cas de conflit nucléaire. Donc, ils m'ont dit, mais est-ce que vous allez faire d'autres opérations? Ah, j'ai dit, si ça rapporte beaucoup d'argent, bien entendu. Mmh. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai dit, je vais acheter des appartements et les vendre en centimètres carrés. Bon, je suis parti là-dessus, mais le commissaire priseur m'a invité 3 jours avant à venir voir d'une façon urgente. Il me dit, écoute, je reçois une lettre de ma commission de la chambre de discipline des commissaires priseurs qui m'interdit de procéder à la vente.
Donc la vente n'a pas eu lieu.
Non. Elle n'a pas eu lieu sous cette forme. Mm. Mais il m'a dit, mais tu peux mettre une autre œuvre en vente. Et je lui ai dit, on est sauvé. Il m'a dit, alors quoi, qu'est-ce que tu proposes? J'ai dit, Jean-Claude, puisqu'on nous interdit de vendre le mètre carré artistique, nous allons vendre tout simplement le mètre carré non artistique.
Le vrai mètre carré, tout simplement.
Et il fallait déterminer le statut. Mm. Et j'ai dit, c'est un morceau de tissu de tergale d'un mètre sur un mètre. On est descendu au bas chez le commissaire Pizer où il y avait un marchand de tissu, j'ai les photos. Et donc, au moment de la vente, j'ai mis ce tissu au sol, mis en scène, éclairé par des spots. Ce qui signifie au marché dessus, ça vaut rien. Mm. Et au moment de la vente, Binoche dit, mètre carré artistique interdit par le procureur de la République, l'artiste vous propose une autre œuvre. Moi, j'ai pris le micro et j'ai dit, ça fait bien la preuve dans la société quand des gens, et en particulier des artistes, posent des questions, ça génère des problèmes. Mm. Et c'est pour ça qu'on a brûlé tant de livres dans l'histoire, ou même lacérer des toiles. Mais maintenant, je suis un artiste repenti. C'est plus la question de la Suisse.
Oui, c'était il y a longtemps.
Et donc, c'était il y a très longtemps. Maintenant, je suis un artiste repenti. Et à l'époque, vous savez, il y avait des artistes qu'on appelait le groupe Support Surface, qui peignaient sur des toiles, justement. Ils avaient, j'ai dit, dans le genre bien à la mode, bien Support Surface, je propose ce morceau de tissu. Et derrière, les garçons, je ne sais pas, ils ont un nom spécial, qui détenait comme ça, et j'ai dit, je le signe. Par là même, je fais rentrer ce morceau chiffon dans l'ordre économique. Et nous allons étudier, du matin au soir, la plus-value, puisque je l'ai acheté ce matin 2,40 francs, et on va étudier, ça s'est vendu 6500 francs.
Quand même.
Voilà. Et donc, ça c'est énorme.
Donc, le canular a fonctionné.
Voilà, mais ce n'est pas des canulars ce que je fais. Non, je ne me défends pas du. J'exploite. Non, ce sont des actions de conscientisation. Alors, elles sont à la limite du canular. Mais un canular, c'est fait pour faire un clin d'œil.
Pour réveiller aussi.
Voilà, voilà. Mmh. Alors que moi, ça va au-delà du canular.
Le fait que je sois liée à la vaste entreprise du mètre carré artistique.
Pierre Restany, critique d'art, en 1977, sur le mètre carré artistique de Fred Forrest.
Montre que pour moi, Fred Forrest touche à travers cette démystification de l'art, la racine même de l'art, qui est le fétiche de la beauté qui se vend et qui se vend en tant que telle. Un mètre carré artistique est avant tout un mètre carré, c'est-à-dire une notion totalement abstraite de la géométrie, celle que justement Descartes pouvait méditer dans le pré où il est né. Et justement, la référence à la donnée la plus simple et fondamentale de la géométrie, c'est-à-dire le mètre carré, vous donne à réfléchir sur ce que l'art en tant que tel peut susciter comme phénomène de compréhension, de compromission, de complicité, de plaisir, de bonheur et de supplément d'âme. Parce que je n'hésite pas à dire que dans ce mètre carré d'artistique, il y a aussi le supplément d'âme. Et c'est ce qui donne à toute la démarche de Fred Forrest sa valeur sociologique, humaine et poétique.
Alors c'est ce que vous appelez peut-être l'art sociologique ?
Oui, parce que c'est un art qui d'abord abandonne les pratiques, les outils comme la peinture, et qui crée des situations qui relèvent de l'état de la société. Et c'est, dans l'espace urbain, j'ai créé beaucoup d'actions, etc. Et ces actions, après, elles rejoignent dans un deuxième temps, le milieu fermé de l'art. Au contraire des artistes qui font quelque chose dans le milieu et que cette chose a une expansion à l'extérieur, moi je fais le contraire.
À l'exception peut-être des street artistes ou des artistes dans la rue.
Mais c'est, les street artistes maintenant sont répandus, mais à l'époque il n'y en avait pas.
Et alors, ce que vous avez appelé l'autre courant, l'esthétique de la communication, qu'est-ce que c'est exactement ?
Eh bien, l'esthétique de la communication, c'est le prolongement de l'art sociologique, mais son ambition est plus grande que l'art sociologique. Parce que c'est plus la mise en rapport de l'homme à la société, c'est la mise en rapport philosophique de l'homme au monde. Et comment ce rapport change avec les nouveaux outils que nous avons aujourd'hui ? C'est la présence à distance maintenant. C'est vous êtes en même temps à la radio, à la télévision. C'est une détermination de l'espace. Et donc, c'est des conditions tout à fait nouvelles dans l'histoire de l'homme. Il n'y a que les sorciers d'Afrique, par exemple, qui imaginaient de faire des actions à distance. Eh bien, la technologie, elles nous permettent à tous d'être des sorciers aujourd'hui.
Alors justement, on dit souvent que vous êtes un pionnier de l'art de la communication, puisque il y a 40 ans, on n'avait pas Internet, mais vous cherchiez déjà à mettre les gens en rapport avec la radio et la télévision qui faisaient leur entrée dans l'espace sociétal, en fait.
Exactement. Et d'ailleurs, des personnages éminents, c'est pour ça que je veux citer leurs paroles, on dit que j'avais inventé Internet avant qu'il existe. Et je crédite cette chose-là.
Et vous pressentiez cette évolution
De
la société vers vraiment...
Plus que présenté, c'était présent pour moi. C'était présent. D'ailleurs, j'étais pas en avance, parce que vous créez avec les informations que vous avez dans votre temps. Et toutes ces informations concouraient par leur convergence à me faire comprendre, à me faire prendre conscience d'une telle évolution.
Internet, les réseaux sociaux, vous les utilisez, vous, aujourd'hui?
Ah oui.
Facebook, lesquels, alors lesquels vous préférez?
Non, je préfère Facebook et LinkedIn. Instagram, je ne pratique pas. Et il y en a deux ou trois autres aussi.
Twitter.
Ouais, oui, Twitter, je pratique.
Twitter.
Et donc, d'ailleurs, mon action...
Vous gazouillez beaucoup.
Voilà. Alors. D'ailleurs, mon action que je fais au Centre Pompidou, je vous ai dit que je crée deux œuvres. À cette occasion. Eh bien, ces deux œuvres, alors la première, on en revient au territoire, va consister à réaliser un territoire virtuel et que les gens pourront visiter en étant au Centre Pompidou.
À l'intérieur du musée.
Ils pourront rentrer, voir les pièces, se promener dans les pièces, parce qu'il y a des pièces avec des objets différents, un peu... souvent provoquant dans ces pièces, et on va d'une pièce à l'autre jusqu'à une fenêtre où c'est comme ça les lieux, hein. Et cette fenêtre, on voit l'espace des mètres carrés. Alors il y a ces espaces qui sont vus, mais après, grâce à la technologie, il y a une transformation de ces espaces d'une façon abstraite où la réalité et la nature de ce lieu disparaissent. Il ne reste plus que le quadrillage. Et là, ça devient un jeu. Mm-hmm. On doit rechercher le totem du territoire.
D'accord.
Et quand on trouve le totem du territoire, après avoir circulé, on appuie sur, on clique sur le totem, il éclate en morceaux, et là va apparaître un diplôme de citoyen que les gens ont gagné. Qui est à remplir, voilà.
Donc là, on est en plein dans ce que vous voulez faire depuis longtemps, ce que vous faites depuis longtemps, c'est-à-dire l'art participatif, impliquer le citoyen,
mais vous
le
savez,
faire agir aussi.
J'ai commencé déjà depuis 20 ans à le faire agir, mais avec d'autres moyens, avec la vidéo, tout mon travail, ma pratique, elle se rapporte à la participation.
Est-ce qu'il y a d'autres artistes avec qui vous avez collaboré et qui ont un peu la même démarche?
Ben, on a créé à un moment donné un groupe qui s'appelait le Collectif d'art sociologique, avec Hervé Fischer, qui a actuellement aussi une exposition au Centre Pompidou.
Est-ce que vous pensez effectivement que vous avez été quand même mis de côté de l'évolution artistique ces 40 dernières années?
Oui. C'est certain, d'ailleurs, même le communiqué de presse qui a paru le dit en filigrane. Alors, à quoi ça tient? Ça tient à ma personnalité qui était toujours un peu radicale et qui a heurté les gens du milieu. Même ceux qui n'étaient pas attaqués directement se sentaient attaqués. Mais moi, j'ai quand même, avec ma petite intelligence des circuits de communication, réussi à m'inventer sans eux. Parce que j'ai pris d'autres supports, j'ai pris le monde. Et en un jour, je suis passé d'un statut d'artiste inconnu à un statut très connu.
Et aujourd'hui, grâce à cette exposition, vous allez encore plus être connu du grand public. C'était un souhait aussi?
Oui. C'était un souhait. Mais et j'ai toujours refusé de rentrer dans le marché. Et là, je fais une exposition dans une galerie. Alors, on peut s'étonner.
C'est vrai. Dans la galerie Pacte, ouais, 70 rue des Gravilliers, dans le 3e arrondissement.
Voilà.
Une exposition qui a débuté le 23 juin et qui a lieu jusqu'au 5 août. Alors, quelle est la différence, finalement? Est-ce qu'il, dans quel ordre il faut faire les expositions? D'abord aller à la galerie et ensuite au Centre Pompidou, ou l'inverse?
Comme on travaille quand même assez complexe, il vaut mieux passer à la galerie, où vous avez quand même les premières informations, justement sur l'espace média, avec des réponses. Il y a aussi une vidéo où Pierre Estany, qui était un critique très connu à l'époque, parle du mètre carré. Bon, et c'est mieux de... Voilà
pour, disons, se familiariser.
Voilà, mais parce que j'avertis vos auditeurs, c'est à la fois un travail difficile et facile. Mmh. Il faut rentrer dedans.
C'est tout un univers que vous avez construit avec Fred Forest.
Voilà, je vais vous dire, ma propre femme, quand je l'ai connue, elle est venue dans une exposition, elle m'a avoué, elle me l'a reconnu, qu'elle n'a rien compris.
Elle a toujours rien compris ou...
Non, maintenant elle a tout compris, elle a compris mieux que moi.
Ça va, tant mieux. Alors Fred Forest, vous avez 84 ans, c'est ça ?
83.
83 ans aujourd'hui. Quel regard vous portez sur votre parcours d'artiste ?
Vous avez dit que j'étais un artiste hors norme. Je suis un artiste hors norme. Et je me félicite peut-être d'avoir été le seul artiste, en France c'est sûr, et au monde, à avoir dans la continuité une attitude critique par rapport aux institutions, et pas par rapport aux institutions simplement, par rapport aussi au pouvoir, de quelle forme que ce soit. D'ailleurs, le mètre carré, le territoire du mètre carré, c'est un outil pour moi. En créant une institution qui se dit un territoire dans la France, et qui prend d'autres positions, à partir du moment où les journaux en parlent, je suis reconnu, l'espace est reconnu comme un lieu d'expression nouveau. Et donc, cette fiction que je crée, elle prend une réalité par les médias et elle peut diffuser mon propos et mes messages. Mais là, je m'éloigne un peu de votre question.
Oui, c'était le regard que vous portiez tout ce travail, sur les 40 ans que vous avez traversé et vous avez dédié ces 40 ans donc à l'art, bien sûr, mais aussi à une certaine forme de revendication. Oui. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un artiste politique ?
Oui, mais pas que seulement politique. Je suis un philosophe. Mm-hmm. Lors de l'exposition d'Anguien, lors de son discours, le maire, parce qu'il y a toujours les officiels qui sont là, m'a reconnu comme un philosophe. Et moi, je reconnais ça. Pourquoi ? Parce que mon travail, c'est pas un travail simplement sur la beauté. Il va au-delà de ça. Bien sûr, un artiste peut amener du plaisir par les couleurs, par les formes, mais mon travail va au-delà de ça, je pense, parce qu'il invite les gens à conscientiser. Et la philosophie, c'est ça, c'est faire prendre conscience aux gens de leur état, de leur pensée et de l'état de la société dans laquelle ils sont.
Alors, si vous n'aviez pas été artiste...
J'aurais été journaliste.
Vous auriez été journaliste.
Oui. D'ailleurs, j'ai essayé de rentrer à l'école du Louvre, mais quand j'avais aucun diplôme, j'ai pas réussi. Alors, à part ça, j'ai eu. Après, aussi, ma vie a été extraordinaire parce que, ayant été rapatrié d'Algérie en 1962, je suis arrivé en France sans avoir aucun diplôme, j'avais que le certificat d'études. Et j'ai gravi peu à peu. Après, j'ai présenté un docteur. D'abord, j'ai eu cette chance d'avoir un poste après avoir été connu par tout ce que les journaux m'ont dit. J'ai pu avoir un poste de professeur à Cergy. J'ai été recruté pour enseigner la couleur, mais j'ai détourné. Mon travail, c'est un travail de détournement.
Vous aimez beaucoup détourner.
Voilà. Oui. Et donc, j'ai détourné et j'ai enseigné la vidéo. Et par la suite, j'ai présenté un doctorat d'État à la Sorbonne et je me suis retrouvé titulaire de la chaire de l'information et de la communication de l'Université de Nice. Mais, comment dirais-je, lire sans vouloir, sans m'en rendre compte, en quelque sorte. Hein. C'est comme des gens qui disent que j'ai une énergie folle. Je ne m'en rends pas compte, moi. Et je m'en suis rendu compte seulement lors de la préparation de cette exposition où j'ai dû plonger dans les archives et où j'ai vu la somme de choses que j'ai réalisées et la somme de choses qui n'ont jamais été réalisées. Et là, j'ai pris conscience que j'avais beaucoup produit.
Donc c'est quand même une rétrospective aussi, cette exposition.
Oui, c'est une rétrospective, mais en fait, l'espace n'est pas assez grand.
Il faudra en faire une deuxième, peut-être une troisième.
Mais vous savez, j'ai eu déjà deux rétrospectives, à Sao Paulo et Philadelphie, mais qui étaient aussi des petites rétrospectives.
Oui, donc à l'étranger, les musées, vous avez été accueillis dans des musées à l'étranger.
Oui, alors j'ai fait beaucoup de choses à l'étranger aussi.
Plus qu'en France, vous avez été mieux perçu comme artiste à l'étranger.
Il y a un universitaire américain j'invite vos auditeurs à venir, qui le 12 à 19h à 21h va participer à un débat sur mon travail. Il vient de publier un livre au Mythe Presse sur mon action dans l'art. Et Mythe Presse, vous savez, c'est une maison d'édition de référence aux États-Unis, hein, pour tout ce qui touche à l'art. Et donc, quelqu'un comme ça, mais lui, il suit mon travail depuis une quinzaine d'années. Il rentrait peu à peu dedans, et maintenant lui aussi connaît mieux mon travail que moi-même.
Et est-ce que vous avez rencontré Nam June Paik?
Oui, je l'ai rencontré une fois au bar, à la cantine du musée d'art moderne de la ville. C'était en 1974, pour une exposition qu'il y avait.
Qu'est-ce que vous vous êtes dit?
Pas grand-chose, parce qu'il ne parle que l'anglais, et moi je ne parle pas l'anglais.
Ah.
Mais on s'est quand même compris. En faisant il m'a fait sur mon invitation que j'avais à l'époque, un tas de petits dessins qui valent cher aujourd'hui.
Fred Forest, donc cette exposition au Centre Pompidou, c'est un aboutissement, on peut dire, quand même, puisqu'il y avait eu ce procès. Hein. Il faut quand même aussi le rappeler.
Oui, ce procès, il a quand même duré 2 ans.
Et vous dites que ça va en surprendre plus d'un.
Oui, bien sûr, les gens qui sont restés au niveau d'une première information n'ont retenu que mon aspect d'agitateur, mon procès contre Beaubourg, et en fait, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Et à Beaubourg, vous savez, j'ai fait une action qui s'appelait La Bourse de l'imaginaire en 1982. Mais là, avec toutes les difficultés aussi que pouvait avoir un artiste, ce serait beaucoup trop long pour que je vous explique ça sur votre antenne.
Une dernière question, qu'est-ce que vous attendez de cette exposition? Est-ce que vous avez
Moi, j'attends rien, j'ai tout vu avec cette exposition.
Donc vous êtes un homme satisfait?
Absolument, malgré les immenses difficultés que j'ai eues, je vous ai dit, par rapport à la structure qui est sclérosée, par rapport à des services qui se font la guerre, par rapport à une administration qui applique... je vais vous donner un exemple. Je suis actuellement en conflit nouveau parce que, d'abord, c'est moi qui dois financer le catalogue entièrement. Je dois financer aussi les gens, la boîte de production qui me fait... Et eux n'ont qu'à mettre en place la structure. J'ai réussi à ce que la structure soit en place. Et maintenant, ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de modérateur au centre pour modérer, pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est. Ils n'ont pas de modérateur. Oui, vous faites ça, mais c'est l'exacte vérité. Et donc, au moment où vous m'avez sonné, j'écris au président.
Donc, avant le 12 juillet, vous avez encore du pain sur la planche.
Oui, mais j'ai gagné la partie, je vais vous dire pourquoi. J'ai gagné la partie parce que maintenant, ils ne peuvent plus reculer. Ils sont coincés. Hein, et je les menace maintenant d'alerter la presse sur cette situation. Et là, je ferai encore une œuvre salutaire pour tout le monde.
En tout cas, le 12 juillet, c'est l'ouverture.
Oui.
Donc voilà, il faut que le public vienne vous découvrir ou vous redécouvrir. Vous serez là pour accueillir les gens?
Je serai là, j'espère, malgré mon état de santé.
Merci beaucoup, Fred Forest. Donc, une grande exposition au Centre Pompidou cet été jusqu'au 28 août, qui débute donc le 12 juillet, on vient de le dire. Et puis également, je le reprécise, à la galerie Pacte, 70 rue des Gravilliers, dans le 3e arrondissement, jusqu'au 5 août. Merci à vous et merci de nous avoir raconté avec toujours la même énergie, puisque vous parliez d'énergie, votre travail et ce qui vous anime. Merci.
Merci, Julie.
Racontez-moi la ronde des pieds. Oui.
Alors, la ronde des pieds, mes pieds, ils vont circuler dans les réseaux. et ils vont se matérialiser sur les écrans du centre, si je les ai.
Hein. C'est-à-dire que le visiteur va créer il va le offrir contour de son pied.
Et il va exposer avec son pied au centre Pompidou.
Voilà. Et donc ensuite, une photo est prise et des milliers de pieds peuvent circuler sur les réseaux sociaux.
Oui, et les gens sont. Il y a deux participants. Le participant qui vient comme visiteur, qui fait ça matériellement sur une feuille, etc. Et le participant qui fait ça par les réseaux. Mmh. Et donc, c'est informatisé. Mais après, on a tous ces archives. Et dans le meilleur des cas, le Centre Pompidou fera une exposition de la totalité des résultats. Alors voilà, parce que vous m'avez posé la question de mes interventions sur le réseau.
Oui, voilà, c'est aussi là toujours interactif.
Voilà,
c'est
dans l'air du temps. Et je mêle le sérieux, parce que le pied, c'est pas un territoire. Vous en appropriez par le pied.
Donc de l'art, de l'humour et du sérieux. C'était Art Confidence sur Art District. Merci de rester à l'écoute d'Art District. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre compte Twitter et sur notre page Facebook.